Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mass Africa. Nous serons ensemble pour parler de très nombreux sujets. Les CAF Awards, les compétitions continentales, la belle sensation d'El Ahly d'Égypte hier en quart de finale du Mondial Ito des clubs. Tout cela se fera dans quelques minutes avec nos différents correspondants. Commencer par la Champions League africaine avec le bilan du week-end dernier et la projection sur les matchs qui auront lieu mardi prochain. Nous parlerons également de la Coupe de la CAF avec le même sentiment. On parlera des matchs du week-end, également des prochaines journées ou de la prochaine journée prévue mercredi prochain. Et puis Mondial Ito des clubs et CAF Awards avec nos différents correspondants, confrères. Nous serons bien évidemment dans différentes capitales. Nous commençons par Boycon Bénin avec Élysée Nkpatine. Bonjour.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue à Boycon au centre du Bénin.
Et c'est du centre du Bénin que nous allons avoir le maximum d'informations et d'opinions. On va commencer déjà par l'info la plus fraîche, la sensation El Ahly qui a battu l'Ittihad d'Arabie Saoudite avec son armada de stars en Arabie Saoudite en quart de finale du Mondial Ito des clubs. Benzema, Fabinho, Kanté n'ont pas pesé lourd sur la balance.
Oui, bien évidemment. Et encore que pratiquement cette équipe évolue à domicile, hein, puisque cette Coupe du Monde qui a eu lieu l'année dernière du côté du Maroc a été déployée du côté de l'Arabie et Saoudite. Un match très intéressant, très engagé, hein, il faut le dire. Et déjà avant l'entame de la rencontre, les Saoudiens partaient largement, en tout cas c'est mon avis, largement favoris compte tenu des contre-performances, compte tenu des difficultés que le géant de l'Afrique a enchaîné des rencontres. Même en Ligue des Champions, on a vu que lors de la troisième journée, Al Ahly a été accroché à domicile par le CR Belouizdad d'Algérie. Et puis, en championnat aussi, ça ne va pas trop tenu en échec. Hein. Donc, vous imaginez, donc c'était pas quand même une équipe d'Al Ahly en grande forme qui s'est déplacée du côté de l'Arabie Saoudite, même si le champion Al Ittihad et aussi ne se trouve pas, n'est pas au mieux de sa forme en championnat aussi, puisque c'est un championnat dominé par un autre club riche. Hein, il faut le dire que depuis cette saison, le championnat d'Arabie Saoudite a changé complètement de dimension où vous venez de citer quelques stars. C'est pas seulement du côté de Ittihad que les stars évoluent dans ce championnat. Il y a aussi d'autres clubs qui regorgent pas mal de stars. Donc, vous imaginez. Donc, c'est dire. Oui, allô?
Oui, on t'écoute, on te suit.
Ah oui, un championnat dominé par Al-Hilal, Al-Hilal d'un certain Mitrovic qui est en très grande forme. Donc, vous imaginez, donc c'est un peu ça. Ittihad qui est à la cinquième position dans ce championnat et qui connaît quelques difficultés en début de saison, a encaissé le premier but et aurait.
Oui, tout à fait.
Puis changer le match ainsi. Karim Benzema n'avait pas raté le penalty. Donc, vous imaginez un penalty qui a tout changé, un penalty raté, qui a complètement basculé en faveur des Égyptiens qui finalement l'ont emporté 3-1. C'est une très bonne performance pour les Égyptiens qui disputent déjà une 4e ou 5e Coupe du Monde des clubs et qui sont déjà allés 3 fois en demi-finale. Donc, en tout cas, les Égyptiens vont essayer quand même de faire mieux que cette demi-finale. Donc, c'est d'aller en finale, ça va être très très difficile. Donc, est-ce que Al Ahly fera comme le TP Mazembe? Est-ce que Al Ahly fera comme le Raja de Casablanca? Est-ce que Al Ahly fera comme le Wydad de Casablanca? Donc, on attend de voir le lundi prochain à l'issue de cette demi-finale qui s'annonce palpitante.
Demi-finale palpitante, ça veut dire qu'Al Ahly sera exempté ou on ne disputera pas son match de Champions League contre Belouizdad et qui sera reporté à dans quelques jours. Mais ça nous laisse tout de même mardi une journée avec beaucoup de choses à importante, beaucoup de suspense, beaucoup de choses à décider, y compris pour le vice-champion d'Afrique, le Wydad de Casablanca, qui s'en est sorti d'une belle contre Simba à Marrakech, une victoire dans les derniers instants 1-0. Ça donne une finale avec un goût spécial, puisque le Wydad vient de changer d'entraîneur avec le recrutement du vétéran Fawzi Banzarti. Élysée ?
expérimenté hein, pour avoir entraîné beaucoup de clubs, notamment en Tunisie, l'Espérance de Tunis ou encore l'Étoile Sportive du Sahel avec 7 clubs avec qui il a déjà remporté la Ligue des Champions. Et si je ne me trompe pas, il a aussi entraîné le Raja de Casablanca. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le football arabe et qui maîtrise aussi la Ligue africaine des Champions. Donc, c'est un plus-value hein, pour le club Wydadi qui a intérêt à réaliser une bonne performance. Bon, peut-être à défaut de ne pas aller battre les Tanzaniens de Simba chez eux à Dar es Salaam, il faudra quand même revenir avec tout au moins un nul hein, puisque après cette quatrième journée, il y aura une trêve, vous imaginez, puisque la Coupe d'Afrique des Nations s'impose, donc il y aura 2 mois pour préparer les 2 dernières journées, donc rien n'est encore perdu pour le finaliste de la saison de la dernière édition, donc Fawzi Benzati s'est voyagé, il connaît, il maîtrise le football africain, il maîtrise bien cette compétition, donc ça va être un match de tous les dangers, comme je viens de le dire. À défaut d'aller chercher les 3 points, il faut revenir tout au moins avec 1 point. Donc, le Wydad a intérêt de faire un bon résultat. En attendant, hein, bien sûr, les 2 dernières journées, vous avez parlé d'une journée très capitale, hein, puisque là, outre cette rencontre, il y aura également le tout-puissant Mazembe qui jouera le FC Nouadhibou, puisque dans ce groupe, vous le savez très bien, et toutes les équipes ont 4 points chacune. Donc, c'est un groupe très difficile. Le groupe dans lequel évolue le récent vainqueur de la Super Ligue africaine de football, la nouvelle compétition, et bien sûr, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui auront aussi fort à faire du côté de Pyramide en Égypte avec sa star, le Congolais Fiston. Donc, on aura du très belle affiche lors de cette quatrième journée qui est quand même démarre de le mardi et prochain.
Et on finira par les CAF Awards qui se sont tenus à Marrakech. Osimhen, meilleur joueur africain. Azizat Ochoa, la meilleure joueuse. Et 5 récompenses pour le Maroc qui a gagné le classement du total des récompenses. On a eu l'impression que c'était très équilibré et qu'il y avait un peu de consensus dans les prix.
Oui, le Maroc aurait pu s'en sortir hein, avec le grand trophée, c'est bien sûr le meilleur joueur africain. C'est à croire que la CAF aussi copie à des moments donnés la médiocrité hein, de France Football qui quand même hérisse ses lois mais qui ne respecte pas. C'est une année de coupe du monde et je ne peux pas comprendre que Naples qui n'a remporté que le championnat. Vous imaginez que le championnat d'Italie, et que bon, c'est vrai, Osimhen finit quand même parmi les meilleurs buteurs, mais devant le gardien de but, Bonou, qui a fait une saison extraordinaire avec le FC Séville et qui allait jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, on l'a vu combien de fois il a pesé lourd dans cette équipe marocaine où il a été le dernier rempart. Vous imaginez à quand cette récompense envers ces gardiens de but qui pratiquement sur une saison peut quand même jouer sur leur formation à près de 80% puisque c'est vrai le Maroc est allé juste en demi-finale, mais on ne peut pas ignorer les grandes performances, les grands matchs que Bounou, Yassine Bounou a laissé sur la pelouse verte. Donc vous imaginez, le Maroc aurait pu s'en sortir avec ce prix, ce grand prix, celui du meilleur joueur africain, et que ceux-là qui votent, ceux-là qui choisissent quand même c'est le meilleur joueur, puissent adresser leur vote à l'endroit de Yassine Bounou, qui a fait une saison super extraordinaire avec le FC Séville. Mais dommage, les attaquants ont toujours le dernier mot. C'est vrai, je n'enlève rien au talent de Victor Osimhen, qui quand même a illuminé de son talent la Serie A italienne. Mais sincèrement, si on veut être objectif et si on veut prendre et suivre un peu les lois, les tests, c'est quand même une année de Coupe du Monde. On aurait pu faire mieux en donnant bien sûr ce trophée à Yassine Bounou. En tout cas, c'est mon avis.
Merci pour tous ces avis, Élisée Onkpatine. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de football africain. On approchera petit à petit de la CAN, donc il y aura un sujet que nous ajouterons à notre ordre du jour. Il est 10h13 au Maroc. Page de pub. Direction Tunis pour parler un peu football avec Ahmed Adala. Bonjour.
Bonjour Amil, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Ahmed Adala qui suit de très près l'actualité marocaine puisque Fawzi Benzarti est de retour. C'est la 4e fois au Wydad, c'est la 6e fois au Maroc et visiblement, même à près de 70 ans ou à plus de 70 ans, il a encore faim de banc de touche?
Bon, apparemment, c'est le cas. Il a toujours faim de banc de touche. D'ailleurs, j'en profite pour t'informer que Fawzi a été choisi dans la liste des entraîneurs qui vont passer la CAF Pro cette année. Je pense qu'ils sont une vingtaine. Donc, voilà, à cet âge-là, ils passent la CAF Pro. La CAF Pro va... on sait tous que, par exemple, en Arabie Saoudite, les entraîneurs ne peuvent plus entraîner sans avoir le CAF Pro ou l'UFA Pro. Donc, il y a 2-3 ans, on avait 5-6, voire un peu plus d'entraîneurs entre la Super League, la Dawri Rouchen, en Arabie Saoudite. Là, on n'a qu'un seul, Youssef Manaï, le Tunisien, qui a le FA Pro. Donc, pour revenir sur le cas de Fawzi Bezzarti, plusieurs questions que se posent au Maroc, en Tunisie même. Que va-t-il ajouter? Que va-t-il apporter au IDED? Certainement beaucoup plus de sérénité, certainement beaucoup plus de discipline tactique sur le terrain et même hors terrain. Bon, on n'a pas vraiment toutes les ficelles, on ne sait pas ce qui se passe au IDED. Mais les points d'interrogation sont là. On va voir d'ailleurs, je pense qu'il est aussi et qu'il a aussi une sanction de 3 matchs en cours. Il pourra pas assister, il pourra pas s'asseoir sur le banc au match de Botola Pro, je suis pas sûr. Mais on va voir face à Simba qu'est-ce que le IDED va faire. Il est là, il va certainement changer des trucs, mais serait-il capable de ramener le IDED là où il devait être? On va le découvrir dans l'avenir.
Est-ce qu'on a été surpris en Tunisie par cet énième changement de cap Fawzi Bezzarti, quelqu'un qui n'a aucune pitié des clubs qui l'entraînent? On rappelle qu'il suffirait qu'un petit problème ou qu'il ait une autre offre supérieure pour qu'il puisse changer de direction.
Bon, on est surpris, oui, plus ou moins, parce qu'on ne s'attendait pas à revoir Fawzi sur le banc d'un club, honnêtement. Depuis son départ de l'Étoile, son nom circulait évidemment dans les coulisses de l'Espérance. Il était à deux doigts de renouveler son contrat, entre guillemets, même si Fawzi n'a jamais signé de contrat avec l'Étoile du Sahel. Et après, il s'est éclipsé. On pensait que Fawzi va certainement pas accrocher le crampon en tant qu'entraîneur, mais honnêtement, on le voyait pas entraîner dans un autre club. Pas seulement vu son âge, mais vu son expérience, vu le titre qu'il avait gagné, mais aussi vu que, je vais le dire quand même, mais certains n'ont pas reconnu Fawzi la saison passée. Il parlait pas trop aux médias. Il était plus ou moins dans son cage. Il voulait pas vraiment parler. Des questions se posent à gauche et à droite, mais après, on le souhaite, que ce soit pour lui ou pour le Wydad, surtout pour lui, évidemment, en tant que Tunisien, une bonne chance. La surprise est là. On va voir de quoi il serait-il capable avec le Wydad pour ce énième retour au Maroc et pour ce quatrième retour sur le banc du Wydad. Le Wydad aussi que, en Tunisie, on est surpris par les news qu'on est en train de lire, les sanctions, les problèmes avec la FIFA, les problèmes avec les joueurs. On pensait pas qu'il y avait aussi énormément de problèmes de gestion chez le Wydad.
Alors, on va parler de terrain avec les matchs de Champions League qui vont avoir lieu mardi. Il y a le déplacement de l'Étoile chez Hilal Omdurman. Ça aura lieu à Dar es Salaam, quelques heures, tiens, sur le même terrain, quelques heures après le match entre Simba et le Wydad de Casablanca. L'Étoile qui joue quasiment quitte ou double son parcours africain.
Exactement. Mais l'Étoile qui est sur une courbe ascendante, il y a beaucoup de confiance, Amine. On sait tous et on a déjà évoqué les problèmes que connaît le club, l'interdiction de recrutement, les problèmes financiers, etc. Mais ils ont à la tête du club un très bon gestionnaire, un ancien président qui a accepté de venir sauver le club, Othmane Jnaïh. Là, l'Étoile, ils sont revenus de loin en battant le Hilal à Rades. Rappelons-le, ils n'ont pas de stade homologué, donc ils jouent à Rades. dans une soirée très compliquée, les conditions météo, le déplacement du public et tout, ils ont quand même réussi à se sauver, à revenir de loin en battant le Hilal 1-0 sur un but de Jacques Mbé, un très beau but d'ailleurs. C'était pratiquement la seule erreur commise par la défense soudanaise et son entraîneur Folland Obenga, une erreur de marquage. Là, il vient tout juste aussi de battre le club africain en Classico, Arades même, sur encore une fois un but de Jacques Mbé, sur un ballon arrêté. Donc voilà, je pense que l'étoile, le degré de confiance est là. Je pense qu'ils vont jouer la carte. La deuxième carte pour ce groupe, tout comme l'Espérance qui, on le sait tous, va se déplacer à l'Angola. Par contre, tu m'attires l'attention sur un point très important. Ils vont jouer à 17h, je pense, et Simba Wydad à 20h, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, est-ce que le stade va supporter ça? Mais il faut aussi signaler que Al Hilal va profiter des supporters, de la présence des supporters tanzaniens qui l'ont déjà supporté face à l'Espérance lors du match aller disputé sur le même terrain.
On finit avec l'Espérance qui va voyager très loin en Angola face aux grands favoris pour la victoire dans ce groupe, Petro Atlético.
Exactement. L'Espérance va jouer contre la surprise de cette bon, surprise pour ceux qui la connaissent pas, hein, qui la connaissent pas, qui connaissent pas ce club, qui connaissent pas cette équipe. Mais vraiment, ils sont en train d'effectuer un travail, un énorme travail, un projet qui dure depuis 3 ans. Malgré la disqualification, l'élimination la saison passée, ils ont quand même gardé leur entraîneur Alexandre Santos. J'ai eu l'occasion et la chance de voir ce club pour ces deux matchs, que ce soit face à l'Étoile ou à l'Espérance du Stade. Vraiment, il y a une discipline tactique, une discipline au niveau de respect des instructions de l'entraîneur. J'ai même essayé d'assister à leur entraînement. Bon, c'est un peu fermé parce qu'ils sont restés à Tunis. Quand je dis Petro Atlético va faire parler de lui pour les prochaines années. Il faut vraiment le garder en tête. Ce club a un projet, a des très bons joueurs qui jouaient. Il y a des joueurs brésiliens, des joueurs du Honduras qui jouent en équipe nationale. Il y a des joueurs qui jouaient dans des clubs des D2 au Portugal, à l'instar de Suárez ou Pinto. Un excellent joueur, ce Pinto, qui peut évoluer dans l'axe ou en milieu de terrain. L'Espérance, par contre. Les supporters, ils sont furieux. Le niveau n'est pas là. Ils sont inquiets. La deuxième carte, la Petro Atlético va certainement se qualifier. Les trois autres clubs, l'Espérance, Al Hilal et l'Étoile, vont disputer la deuxième place qualificative à la Ligue des Champions, au huitième de finale de la Ligue des Champions.
Alors, ma dernière question, cette fois-ci, c'est promis. Qu'est-ce qui se passe à l'Espérance? Pourquoi cette baisse de forme? Est-ce que ce sont les contre-coups de l'African Football League, par exemple? Voyage tous les 3 jours, match tous les 3 jours, etc.
Non, au contraire. Au contraire. Parce que l'African Football League a servi de bien pour l'Espérance pour reprendre un peu de confiance en soi, que ce soit pour les joueurs, le staff ou les supporters. Ils ont quand même battu Mazembe 3-0. Petro Atlético avait disputé l'African Football League. Bon, ils se sont pas qualifiés au second tour, mais Al-Ahli, par exemple, qui a disputé l'African Football League sans vraiment laisser de bons souvenirs. Ils ont quand même disputé le même nombre de matchs que l'Espérance, que le Wydad. Et là, hier, ils ont effectué une très, ils ont rendu une très bonne copie face à Etihad, à Jeddah, lors de la Coupe du Monde de club. Je pense que l'Espérance, c'est plutôt des décisions qui tardent à venir ou qui ont été prises au mauvais moment, que ce soit pour le recrutement, pour le changement d'entraîneur. Il faut pas oublier, j'avais fait les statistiques, j'avais jeté un coup d'œil sur le changement d'entraîneur. Par exemple, le Wydad avait changé, je pense, 15 ou 16 entraîneurs. L'Espérance, depuis 2015, a changé 25 fois d'entraîneur. L'Étoile, 24 fois. le CSS 25 fois. Donc c'est trop par rapport aux équipes africaines qui travaillent dans le silence. Petro Atletico, leur entraîneur, il est là depuis 3 ans. Avant lui, il y avait un entraîneur qui est resté 5 ans. Avant lui, il y avait aussi un entraîneur qui est resté de 2007 à 2015. Mamelodi Sundowns, Mossimane, il est resté 8 ans. Il faut être patient. Je parle pas seulement de l'espérance sportive de tennis, mais de tous les clubs de l'Afrique du Nord. Ils doivent. C'est le problème. C'est un très grand problème, Amine. C'est le problème des clubs, des dirigeants, des supporters qui ne comprennent pas qu'il faut du temps pour avoir pour mettre en place tout un projet. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais si on va en parler, on va prendre encore une heure.
Bah, on ne prendra pas une heure, on a juste pris quelques minutes et c'est toujours un plaisir de les passer avec Ahmed Adela. Merci beaucoup Ahmed, merci. On se retrouve samedi prochain, on fera le point sur ces compétitions continentales mais aussi sur la CAN qui se profile à l'horizon avec l'annonce par la CAF de la décision de donner 27 joueurs à chaque équipe mais à condition qu'il n'y ait que 23 sur la feuille de match. 10h25, page de pub et on revient. Vous êtes toujours sur Radio Mars. Mars Africa se poursuit à 10h26 à Casablanca avec Elisabeth Goli depuis Abidjan. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine. Bonjour chers auditeurs de la Radio Mars.
Pas exactement Abidjan, puisque Elisabeth s'est un peu éloignée de la capitale économique, mais toujours en Côte d'Ivoire. Elisabeth, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de vibrer à quelques jours de l'ouverture de la CAN. Quelles sont les dernières nouvelles concernant cette organisation de la CAN?
Les choses se passent bien, le COCAN continue toujours sa visite et ses sensibilisations auprès des différentes couches socio-sociales du pays, que ce soit les religieux, que ce soit les structures, les entreprises publiques et privées. Le COCAN continue toujours sa sensibilisation pour que les choses se déroulent dans de meilleures conditions. Et à côté de cela, il y a la vente des billets qu'il y a démarrer. C'est vrai que le premier jour, ça a été un peu difficile parce qu'il y avait une affluence et une très grande affluence, mais aussi il y avait des soucis d'approvisionnement parce qu'au moment où la population arrivait pour s'acquitter de ses tickets et autres, les points de vente n'étaient pas encore ouverts. Mais toutefois, les choses sont rentrées dans l'ordre depuis hier. Les gens ont commencé à acheter les billets d'avion et aussi dans le souci de faciliter les déplacements aux différentes délégations qui vont arriver. Des mesures ont été prises au niveau de l'aéroport en ce qui concerne les tarifs des taxis qui doivent relier l'aéroport au centre-ville d'Abidjan. Donc, les tarifs sont fixés à l'aéroport. Donc, on sait aujourd'hui, quand on prend un taxi de l'aéroport à un point A ou un point B, on sait combien il faut payer. Ils ont fixé les tarifs tant minimum que maximum. Donc, les chauffeurs de taxi aujourd'hui ne pourront pas dépasser ces tarifs fixés par le gouvernement. Et à côté de cela, dans la ville, la ville bat son plein. Tout le monde est prêt. Au niveau des artistes, chacun essaie. C'est vrai qu'il y a un groupe qui a été choisi pour l'hymne de la CAN, qui a été choisi de façon officielle. Mais à ce niveau, personne ne veut baisser les bras, personne ne veut rester un spectateur. Donc, tous les artistes à tous les niveaux qu'ils sont, et c'est chacun à son niveau de sortir un album pour pouvoir égayer tous les gens au niveau de la CAN. Et tout est fait prêt au niveau des infrastructures routières et autres. Les gens continuent l'embellie afin que le jour J, tout soit. À l'arrivée des gens, les gens puissent vraiment se retrouver dans de meilleures conditions. Il en est de même pour les hôtels, les restaurants et autres. Tout le monde est vraiment à plein pour le succès de la CAN.
Alors, le succès de la CAN, ce sera bien évidemment tout ce que nous souhaitons, succès médiatique sur le plan du public, de l'engouement. Mais en attendant, on va revenir aux affaires courantes. Et les affaires courantes, c'est l'équipe de la SEC d'Abidjan qui est allée gagner au Botswana et qui prend la tête définitivement de son groupe et a la possibilité mardi, face au même adversaire, Galaxy, de sceller sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Qu'est-ce qui a changé entre la SEC d'hier et la SEC d'aujourd'hui, Elisabeth?
Qu'est-ce qui a changé entre la SEC d'hier et la SEC d'aujourd'hui? Ben, je crois que c'est c'est au niveau organisationnel et puis au niveau mental. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un entraîneur chevalier qui connaît vraiment bien, qui commence aujourd'hui, qui vraiment est en train de maîtriser son équipe parce qu'il sait à quel moment il faut que cette équipe accélère, que les joueurs accélèrent quand ils sont sur l'aire de jeu. Et il sait à quel moment un tel peut faire son entrée sur le terrain et changer la décision, changer vraiment le cours de la rencontre. Donc, il y a aujourd'hui la connaissance même effective du groupe, et puis le système, les tactiques à utiliser afin que les joueurs ne soient pas fatigués au plus vite. Ils savent qui mettre à quel moment. Et les joueurs également, il y a aussi cette entente au sein de l'équipe où les joueurs, ils savent, ils sont unis pour une seule cause, et la cause, c'est la victoire de la SEC. Aujourd'hui, personne à la SEC ne joue individuel. Donc, les gens essaient de retrouver vraiment l'esprit d'antan qui a fait de la SEC ce qu'elle était, la grande équipe. Bon, malheureusement, en Côte d'Ivoire, la difficulté, c'est que la SEC est la seule équipe qui fait le beau temps, c'est la seule équipe qui fait chose. Mais au niveau local, il faut reconnaître aussi que la SEC, ça ne marche pas fort, puisque le jeudi, la SEC a fait profil bas en s'inclinant au niveau du championnat local, en s'inclinant sur le score de 2-0. Donc, on espère que Chevalier va régler tout, va revoir encore le système pour pouvoir aussi garder, être complètement vraiment leader, leader de sa troupe et venir à bout vraiment de cette même équipe de Galaxie.
Et pourtant, l'équipe s'est inclinée il y a quelques jours contre le Stella d'Abidjan dans un derby sur le score de 2-1. Résultat qu'on peut comprendre après un long voyage au Botswana?
Oui, ça peut se justifier aussi par le long voyage, mais pas seulement par le long voyage, parce qu'il est, arrivé où la SEC, sans avoir fait de déplacement, chute aussi devant certains adversaires au moment où l'on s'y attend le moins. Bon, la plupart du temps, l'entraîneur il pointe du doigt l'organisation des compétitions, l'organisation au niveau de la fédération et autres. Est-ce que là le problème? Est-ce la fatigue? C'est vrai qu'il y a la fatigue, mais à un moment donné, quand même, à des périodes un peu plus récentes, la SEC gagnait ses matchs, même après être revenu d'un long périple et autres. Donc, il n'y a pas que la fatigue, mais il y a aussi la concentration, il y a aussi la considération que l'on accorde au championnat local, parce que souvent, la SEC se dit c'est gagné. Bon, de toutes les façons, l'adversaire, il faut prendre tous les adversaires au sérieux, et à certains moments, bon, au vu du classement de l'adversaire qu'ils ont en face, ils étaient tant bien, ils étaient plus ou moins de minimiser l'adversaire, et c'est ça, et c'est ce qui fait qu'ils sont souvent victimes de défaites. Et là, il faut revenir à beaucoup de choses. C'est vrai que la SEC aujourd'hui est en train de caracoler autour de, dans sa poule et autres, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut à certains moments aussi voir l'adversaire en face. La forme, le poids de cet adversaire, l'expérience même dans cette compétition aussi de cet adversaire, parce que la SEC est quand même une équipe aguerrie en termes de compétition continentale, des joueurs qui ont l'habitude de ces hautes compétitions et autres. Donc, il ne faut pas aussi se réjouir très vite.
On ne se réjouira pas très vite et on espérera le meilleur pour la SEC d'Abidjan. Mais après les matchs du Wydad, je le dis bien, hein, parce que le Wydad va revenir en lice, et on espère un Wydad à SEC d'Abidjan décisif dans quelques semaines après la CAN. Si les deux équipes pouvaient aller marcher la main dans la main vers les quarts de finale, ça nous ferait énormément plaisir. 10h34, merci Elisabeth Goli, on se retrouve samedi prochain. Nous, on fera un petit voyage, plutôt un long voyage, puisque nous irons en République démocratique du Congo, retrouver notre ami Michel Tobo. Michel qui doit être impatient de voir son TP Mazembe se qualifier pour les quarts de finale. Le groupe est assez compliqué avec 4 équipes à 4 points. Outre le TP Mazembe et son adversaire, le FC Nouadhibou, il y a également Mamelodi Sundowns et les Égyptiens de Pyramide qui s'affrontent le jour même. Donc, mardi 14h, c'est le moment ou jamais pour le TP Mazembe de pointer le bout du nez vers les quarts de finale. N'est-ce pas, Michel? Bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci hein, de m'accorder encore ce petit moment justement pour vous donner les quelques actualités sportives ici en République démocratique du Congo. Bien évidemment, le tout-puissant Mazembe va jouer sa quatrième journée de la Ligue des Champions face à la formation de Nouadhibou. Ce sera le mardi prochain et ici à Lubumbashi. Mazembe qui est allé chercher un nul, hein, 2-0 buts partout justement face à cette équipe mauritanienne. Mais maintenant, il faudra confirmer. C'était déjà bien hein, d'avoir fait ce match nul et le match d'avant avec ce succès important face à Mamelodi Sundowns hein, qui a, on va dire, boosté davantage le moral de l'ensemble de l'équipe. Et maintenant, face à Nouadhibou, lors de ce match au retour, il faudra absolument confirmer pour éviter de se faire distancer par les autres adversaires. Parce que voilà, les deux premières places pour la qualification au quart de finale seront, voilà, valeront cher, ça c'est sûr. Donc il faudra commencer à se faire déjà des points à domicile hein, pour essayer d'avoir un maximum voilà, de points qui permettront certainement à Mazembe de se rassurer déjà pour l'une des deux premières places. On va voir le match. Le match aller s'est joué avec beaucoup d'intensité. On a vu, ça sera certainement également lors de ce match au retour. Mais maintenant, il faudra l'emporter tout simplement pour éviter des problèmes justement lors du décompte final. Donc ça sera le mardi prochain, on reviendra sur ça bien évidemment le samedi prochain pour faire un petit résumé. L'autre actualité hein, c'est bien évidemment les CAF Awards. Voilà, c'est vrai, la République démocratique du Congo n'a pas remporté depuis lors de cette cérémonie, mais c'est quand même bien pour la simple bonne raison que deux de nos léopards figurent quand même parmi les nominés. Ils étaient même au nombre de trois hein. Voilà, dans l'équipe type, on retrouve Chancel Mbemba qui avait été nominé parmi les 10 premiers pour le titre de meilleur joueur africain. Il est dans les 11 de départ, les 11 types plutôt. C'est quand même bien. Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards d'Afrique démocratique du Congo, qui a fait une parfaite saison du côté de Marseille. Il est encore en train de le prouver cette saison. Il a porté même le brassard de capitaine lors du dernier match de l'Europa League face à Brighton. C'est pour la première fois qu'il porte ce brassard au niveau de Marseille. Ça prouve qu'il est en train de monter en puissance. Et voilà, et tant mieux pour nous. On aura besoin de lui lors de la prochaine CAN, donc en Côte d'Ivoire. L'autre joueur congolais, c'est bien sûr Fiston Mayele. Il n'a pas gagné, c'est vrai, mais bon, il se tient quand même avec une deuxième place hein, pour le titre de meilleur joueur évoluant sur le continent. Il a terminé meilleur buteur de la Coupe de la Confédération la saison dernière. Il est maintenant du côté de Pyramide. Là également, il est en train de faire une très bonne entame de saison. Il a déjà 4 buts en 9 matchs pour le moment avec le club égyptien. Ils sont leaders au classement, donc c'est bien également. Il y avait également Glody Lilepo, voilà, qui avait postulé également pour ce prix, mais il n'a pas été retenu parmi les trois premiers. Glody Lilepo, qui a été retenu pour la simple et bonne raison qu'il a évolué la saison dernière du côté de Al Hilal Omdurman du Soudan avec Florent Ibenge, mais là maintenant il est du côté de Valenciennes en deuxième division française. Ils vont certainement faire de leur mieux la saison prochaine hein, pour revenir encore cette liste, et on espère que il y aura encore d'autres Congolais qui vont participer la saison prochaine donc à ces CAF Awards. Voilà Amine, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire en rapport avec l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. Merci à vous de m'avoir accordé ce petit temps. On se retrouvera certainement le samedi prochain pour d'autres actualités. Merci à vous, merci à l'ensemble des auditeurs qui m'ont suivi et bien entendu à tous les confrères qui sont passés et qui passeront bien évidemment après moi. Merci à vous, on se retrouvera certainement le samedi prochain.
Au revoir. Celui qui passera après Michel Tobo, qu'on remercie infiniment, et notre ami Drissa Nyono depuis Bamako. Drissa, on va parler de ce stade malien. Bonjour.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
On va parler du stade malien qui pour l'instant a un parcours assez intéressant en coupe de la CAF et qui après avoir réussi un bon match nul en Afrique du Sud retrouve l'équipe de Sekhukhune. Cette fois-ci, il va falloir gagner Drissa pour pouvoir se rapprocher davantage des quarts de finale, où il semble que la renaissance de Berkane a déjà un pied et quatre orteils à ce tour de la compétition.
Tout à fait. Et c'est un match décisif qui attendra, qui attend ici hein, à Bamako le 20 décembre prochain à partir de 16h au stade 26 mars. Les Blancs de Bamako qui ont ramené un point de leur voyage de l'Afrique du Sud. Alors le stade était attendu. Le stade a respecté, entre guillemets, son statut du côté de l'Afrique du Sud, c'est vrai. Ce qui était voulu, c'était une victoire. À défaut, avoir ce match nul-là et ensuite revenir à la maison pour venir capitaliser ce résultat, aller du côté de l'Afrique du Sud. Alors, avant ce match décisif, comme je le disais, les Blancs de Bamako vont jouer en championnat ici, en match de la 9e journée. Et là, Bako Sec est attendu pour donner encore de la chance à certains joueurs qui n'ont pas pour le moment pu exprimer tout leur savoir-faire sur le terrain. En tout cas, ce qui est quand même évoqué ici par les supporters du Stade Malien de Bamako, il faut impérativement gagner ce match de la 4e journée parce que de l'autre côté là-bas, ils estiment que la Renaissance de Berkane pourra également faire le travail. Et là, si le Stade gagne son match de la 4e journée, il recevra après la CAN, le Diable Noir du Congo, en cas de succès, ça peut ouvrir également une grande porte aux Blancs de Bamako pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.
Alors, quels sont les atouts du Stade Malien à ce niveau de la compétition et quels sont les dangers que représente l'équipe de Sokhokhoun? Tu as pu certainement suivre ces matchs et notamment le match aller.
Exactement. Au match aller, en tout cas, il faut dire que lors des 45 premières minutes, cette équipe sud-africaine a quand même accentué la pression et a voulu et a mis à mal la défense des Blancs. Et là, le fait que cette défense du Stade Malien de Bamako a pu résister à l'extérieur et n'ait pas encaissé de but a été un point positif signalé par son coach Bako Sec sur le plan mental. Alors le Stade, on le sait, c'est une équipe également qui joue, mais elle a des difficultés à domicile. Alors ses atouts, ce sont ses milieux de terrain et ses attaquants. Il s'agit de l'Ivoirien Franck Tiessé qui n'a pas pu tout retrouver ses pieds face à la Renaissance de Berkane, mais qui a quand même fait un bon match du côté de l'Afrique du Sud. Ensuite, le jeune milieu de terrain formé dans le centre, il s'agit de Lassine Kouma, et qui a fait une belle entrée et face à la Renaissance de Berkane, ici à Bamako, et qui a continué sur cette lancée du côté de l'Afrique du Sud. Et bien évidemment, le jeune attaquant également, Amadou Traoré, qui était blessé et qui a signé son retour dans le nid et des aigles. C'est la bonne nouvelle, en tout cas, annoncée ici au Stade Malien, parce que c'est l'un des meilleurs buteurs de cette formation en championnat. Et il est attendu aujourd'hui pour revoir et pour marquer et faire et rendre heureux ses supporters.
En tout cas, on espère que l'équipe du Stade Malien pourra montrer le meilleur visage possible devant ses supporters. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant Drissa, les préparatifs des Aigles du Mali pour la CAN? Est-ce qu'on se réjouit d'avoir la possibilité de sélectionner 27 joueurs pour la prochaine compétition, comme l'a annoncé la CAF hier?
Oui, on se réjouit parce que ici, en tout cas, vu l'effectif du Mali et les milieux de terrain et qu'a le Mali à travers les championnats, en tout cas, les choix étaient disséqués ici. Tout le monde annonçait les probables arrivées dans la liste d'Eric Sekouchel et d'autres également, même s'ils performent dans leur club, qui n'auraient pas leur chance d'être dans la liste parce qu'il va falloir à un moment donné, si c'était à 23, choisir 8 milieux de terrain. Et quand tu regardes ce secteur médian au Mali, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer. Alors certes, c'est vrai que avec la blessure de Cheick Doucouré et également celle annoncée, celle est dévoilée il y a quelques jours par le docteur de l'équipe nationale, docteur Alidou Meïga, de Adama Traoré Malouda qui sera également absent, en plus de Ibrahima Koné, il y a Mohamed Camara qui est sorti sur blessure avec Monaco hier. Et ça suscite également des inquiétudes. Alors, avoir 27, la possibilité de choisir 27 joueurs est une bonne nouvelle pour Eric Sekouchel, qui entend également apporter d'autres joueurs, surtout au milieu de terrain, ou sinon même à l'attaque. Et à l'attaque, il y a un certain Alassane Pléa qui est annoncé dans le nid des aigles. D'après nos informations, il a été quand même inscrit dans la liste des 55 probables parmi lesquels les 27 devraient être choisis. Alors, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le Mali, vu toutes ses blessures et également ses incertitudes au niveau de certains joueurs, dont notamment El Bilal Touré, qui n'a pas encore joué depuis plusieurs mois. Alors ici, on attend avec impatience de voir ceux qui seront choisis par le sélectionneur national Eric Sékou Sall. En tout cas, il est là depuis 4 jours. Il prépare le terrain. C'est le centre sportif Ousmane Bleni de Kabbalah qui a été rénové à coups de milliards par les autorités, qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Et c'est ce centre également qui va accueillir les Aigles pour la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Merci beaucoup Drissa Niono. Rendez-vous samedi prochain pour continuer à faire un tour d'horizon de l'actualité malienne. 10h45 de Bamako à Conakry, il n'y a qu'un petit pas à franchir avec notre ami Chérif Aliou. Bonjour Chérif. Chérif ? On va essayer de joindre notre ami Chérif Aliou pour parler un peu de l'actualité de la Guinée. Bonjour Chérif. Chérif ?
Bonjour Amine, bonjour à tout le monde.
Alors, l'équipe de soir de Koya a été battue par Abou Salim de Libye 1-0. Il va falloir, en Coupe de la CAF, prendre une revanche, histoire de rester en course dans la compétition, puisque le seul représentant guinéen en compétition continentale a déjà subi 3 défaites en 3 matchs.
Ah oui, hein, c'est compliqué hein, pour l'équipe de soir Academy, dans cette campagne hein, de la Coupe de la Confédération. A subi autant de défaites en autant de sorties, mais après du résultat de Sport Academy, qui est une jeune formation qui est un apprentissage dans cette compétition à Amine. Voilà, parce que Sport Academy est une équipe qui a été fondée en 2003 seulement. Elle apprend dans cette compétition. Elle se fait plaisir même. Vous l'avez dit, hein, il faut une victoire pour essayer en tout cas de finir en beauté cette campagne-là, même si c'est pas évident, hein, parce que l'équipe a vraiment beaucoup de choses à parfaire. Mais bon, comme on l'a dit, hein, c'est dans ces moments comme ça qu'on devient plus fort à l'avenir. On espère que Sport Academy apprendra et reviendra plus fort les années prochaines, pourquoi pas.
Justement, quels sont les atouts de cette équipe pour pouvoir gagner au moins ce premier match dans la compétition face aux Libyens d'Abou Salim?
Écoutez, c'est sa jeunesse, hein, sa jeunesse. C'est une équipe hein, qui, comme je l'ai dit, est très très jeune, avec des garçons qui ont pour la plupart participé au dernier CHAN. Certains ont même été convoqués avec l'équipe première du Sili, même s'ils n'ont pas joué, mais il y a quand même cette petite expérience pour certains d'entre eux. Et comme je l'ai dit, il faut se faire plaisir, vraiment se libérer l'esprit, hein, chercher à aller prendre les 3 points pour essayer de finir de façon honorable ces phases de groupe de la Coupe de la Confédération. On va pas leur en vouloir, hein, s'ils sont éliminés, non. En tout cas, ils ont fait honneur à leur rang en se qualifiant pour les phases de groupe, en étant le seul club guinéen présent en campagne interclub de la CAF cette saison. Donc il va donc falloir chercher à prendre 3 points, se faire plaisir, se jouer sans pression, pour essayer d'engager les 3 premiers points hein, de leur histoire en campagne africaine, ce qui sera vraiment historique hein, pour Sport Academy.
Merci beaucoup Chérif Aliou, on s'attardera davantage avec l'actualité guinéenne la semaine prochaine, où il sera question également des préliste pour la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. On finira ce tour d'horizon de l'actualité continentale avec une escale au Cameroun, avec notre ami William Tchango qui va nous parler un peu des espoirs déçus de André Onana qui aurait aimé gagner les CAF Awards, également les dernières actualités de ce pays d'Afrique centrale, de ce géant footballistique d'Afrique centrale. Bonjour William.
Bonjour Amine, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les correspondants et tous les auditeurs à travers le monde. Pour ce qui est des CAF Awards, je dirais distinction amplement méritée pour Victor Osimhen qui a été, l'homme clé de Naples l'année dernière. C'est lui qui a permis à cette équipe de remporter le Scudetto 23 ans après le dernier sacre qui avait eu lieu en 1990. En 38 matchs l'année dernière, il a inscrit 31 buts. Donc, c'était le facteur X, il faut le dire, de l'équipe de Naples la saison dernière. Et avec l'équipe du Nigeria également, il prend de plus en plus de l'envergure. C'est la star, c'est le joueur clé, c'est l'attaquant sur qui reposent généralement tous les espoirs aujourd'hui. Donc, il faut dire que en dehors de lui, le Nigeria a été doublement honoré avec Assissat Ochoala qui a remporté le sacre pour la sixième fois consécutive. Donc c'est un exploit pour cette joueuse du FC Barcelone. Et elle domine, elle continue justement de garder son emprise sur le football féminin, sur le continent africain. Bon, pour le reste, il faut dire que ça aussi est mérité pour Walid Regragui, qui a été logiquement élu meilleur entraîneur de l'année. Pareil pour Yacine Bounou, qui a remporté le Gant d'Or, c'était le meilleur gardien de l'année. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit notre compatriote André Onana, qui lui aussi a réalisé une belle saison avec l'Inter de Milan et une finale de Ligue des Champions disputée. Mais Yacine Bounou avait bien sûr un grand avantage avec cette belle Coupe du Monde qu'il a disputée avec le Maroc qui a terminé demi-finaliste. Un parcours inédit pour une nation africaine qui atteignait pour la première fois cette étape de la compétition mondiale. Donc le Cameroun rentre véritablement bredouille de cette cérémonie des CAF Awards. Ça fait quand même quelques années que ça dure. Ça fait des années que on attend de voir un nouveau lion indomptable élu Ballon d'Or africain. Faut dire que la dernière fois que le Cameroun avait été représenté au plus haut sommet de cette distinction continentale, c'était avec Samuel Eto'o en 2010. Ça fait 13 ans aujourd'hui que ça dure. Et compte tenu de l'environnement actuel, on a véritablement un peu du mal à voir d'autres ballons d'or arriver à se poindre à l'horizon, mais on ne perd pas espoir. Il y a la relève qui est en train d'être travaillée et préparée. On espère que d'ici quelques années, le Cameroun reprendra sa place au sommet de la hiérarchie du football africain et nous produira de nouveaux ballons d'or africains. Donc, ça a été en somme une très belle cérémonie organisée par la CAF dans la très belle ville de Marrakech que j'ai eu l'honneur de visiter au mois de février dernier. Donc une belle organisation en somme pour le Maroc qui aujourd'hui se positionne comme une véritable terre de football, qui se présente comme la place forte du football africain et qui le confirme tous les jours. Il y aura d'autres compétitions que le Royaume chérifien va abriter. Il sera toujours avec bonheur, avec plaisir que les Africains se mobiliseront, se déplaceront pour y assister dans ce pays. Donc, belle suite d'émissions et à samedi prochain, certainement, pour d'autres sujets sur le football africain.
Et il faudrait dire belle fin d'émission et à samedi prochain, cher William, puisque nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous sur Mars Africa. Nos remerciements à notre ami Absamad qui a assuré la mise en onde. On remerciera tous nos amis qui nous ont assuré ces infos qui étaient disponibles et également concis, précis pour nous donner je dirais le meilleur de l'actualité, le must de l'actualité sur notre continent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain si Dieu le veut. On finit en beauté, en musique, et on se donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir à toutes et à tous.
Because of you, I be on the phone all night long, oh. Don't be smarting when you do it to me, oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. M-L-M-E, uno, mama, honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. Emily, I know.
feel like I know I see before real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing,
kiss me on the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, that's when my medulla, I can't talk alone. Oh no, no. Emiliano, 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 no. Emiliano, 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 no. You're an Emiliano, 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 no. My Emiliano, 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 no.
On va se pinter.